Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue sur Riverwood Podcast. Je suis le frère Alain Mizel, fondateur des ministères Riverwood International, ici donc à Laval, au Québec, Canada. Aujourd'hui, nous continuons donc sur notre série d'enseignements sur le sujet « Connaître Dieu ». Connaître Dieu. Nos podcasts sont disponibles sur www.riverwood.podomatic.com. ou alors en souscrivant à iTunes, Twitter ou Facebook, et sont sponsorisés par le ministère Riverwood International, ici à Laval, au Québec, Canada. Si vous nous suivez un peu partout dans le monde, nous serons contents d'avoir de vos commentaires. Alors, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages et nous voulons savoir si nos enseignements vous raffermissent et permettent à votre foi de grandir dans le Seigneur. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous votre feedback si jamais vous nous suivez et vous écoutez donc nos podcasts un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors, le sujet de cette semaine est sur l'omniprésence. Omniprésence, un caractère majestueux de Dieu. Omniprésence, un caractère majestueux de Dieu. Quand nous avons commencé cette série sur la connaissance de Dieu, donc connaître Dieu, nous avions d'abord appris que Dieu est un être spirituel. Il est esprit et créateur de l'univers et qu'il règne et dirige sa création, incluant vous et moi. Dieu s'est révélé à nous et maintenant c'est à nous de prendre l'initiative de pouvoir le connaître et de pouvoir connaître donc le roi, cet excellent roi de l'univers. Il est le seul, comme je l'avais dit au départ, Echad, comme ça se dit en hébreu, le seul Echad, vrai Dieu, qui s'est révélé à nous comme existant en trois personnalités causes égales du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Il est souverain parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui exerce un règne absolu et actif sur toute sa création à son seul compte et ne répond absolument à personne d'autre sauf lui-même. Amen. Parce que Dieu est souverain, alors il dirige le cours de l'histoire pour l'accomplissement de ses plans et desseins. Eh bien, Ésaïe 46 exprime très bien la souveraineté divine et Ésaïe 46 donc dit ceci au verset 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis quoi? Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu dit que ses arrêts subsisteront et il exécutera toute sa volonté. Eh ben, ce passage de la Bible nous donne une idée assez claire de la souveraineté de Dieu et sur le fait que Dieu est souverain et contrôle les événements mondiaux. Amen. Nous avons également appris que Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Dieu est tout puissant, ce qui veut dire que Dieu est puissance et que tout son être est puissance. Personne n'a ni pouvoir ni puissance à l'exception de ce qui vient de Dieu. Mais visiblement, pour que Dieu soit souverain sur sa création et pour qu'il exerce sa puissance absolue sur sa création, ben il doit connaître toutes choses. Alors, nous avons appris dans notre dernier enseignement que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient, on veut simplement dire que Dieu est toute connaissance. Il est toute connaissance parce qu'il sait tout. Dieu sait tout. Dieu n'essaie jamais d'acquérir la connaissance parce qu'il est connaissance. La connaissance a une définition, et bien la connaissance, c'est Dieu. Eh bien, cet enseignement que nous abordons donc pour cette semaine porte sur le quatrième caractère majestueux de Dieu. Le quatrième caractère majestueux de Dieu, chers frères et sœurs, eh bien, est son omniprésence. Quatrième caractère de Dieu que nous étudions, donc l'omniprésence divine. Eh bien, son omniprésence signifie que Dieu est présent partout à la fois. Dieu est présent partout à la fois. Eh bien, il n'y a tout simplement aucun endroit où nous pouvons nous cacher de la présence de Dieu. Regardez avec moi ce que le prophète Jérémie dit dans Jérémie 23. Jérémie 23 au chapitre, au verset 23 à 24. Jérémie chapitre 23, verset 23 à 24. « Suis-je un Dieu qui ne considère pas les réalités proches ?» déclare l'Éternel. « Ne suis-je pas un Dieu qui va aussi de plus loin ?» Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le voie? Déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. Dieu dit qu'il voit les réalités proches, mais qu'il peut également voir en même temps les réalités éloignées, tout ce qui est éloigné. Amen. Il pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je le voie? Est-ce qu'il y a un endroit dans l'univers entier, est-ce qu'il y a un endroit sur la face de la terre auquel toi, mon frère, toi, ma soeur, peut te dissimuler où Dieu ne peut pas te voir? Eh bien, la réponse toute simple est non. Il n'y a aucun endroit où nous pouvons nous cacher de la face de Dieu. Alors, Dieu dit qu'il remplit le ciel et la terre. Il remplit le ciel et la terre. Eh bien, chers frères et sœurs, je suis venu ce soir pour vous dire qu'il n'y a aucun endroit où nous pouvons nous cacher de sa présence. Il n'y a simplement aucun endroit où nous pouvons nous cacher de la présence de Dieu. Dieu est partout, il voit les réalités proches et toutes les choses éloignées. Et quel que soit l'endroit où nous nous réfugions, où nous pouvons trouver refuge, où que nous nous trouvions, ben Dieu y est déjà, il nous précède parce qu'il est partout. C'est justement parce que Dieu est présent partout à la fois, qu'il connaît toutes choses. Si moi, frère Alain, je souhaite savoir ce qui se passe à New York, par exemple, de ma maison ici, donc, à Laval, au Canada, eh ben, je serai donc obligé de prendre l'avion ou le train ou la voiture pour me rendre sur place à New York, qu'on appelle le Big Apple, pour savoir exactement ce qui se passe là, à cet endroit. Mais si je dois me rendre au Cap en Afrique du Sud, par exemple, chez nos amis en Afrique du Sud, salut les amis à Riverwood en Afrique du Sud, au Cap, pasteur Granville et Denise et les autres, pasteur Craig, salut. Eh ben, si je veux aller voir mes amis au Cap, par exemple, je dois m'y rendre physiquement et en personne. Oui, je sais que la technologie évolue et nous essayons de nouvelles choses tout le temps et je suis absolument au courant d'une nouvelle technologie appelée projection holographique qui fait que on peut scanner une personne et la projeter et faire comme si la personne elle était présente sur une scène. Avec notre hologramme, on n'y est toujours pas physiquement. La personne n'y est toujours pas physiquement. Même avec l'holographie aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau où on peut être projeté et être partout à la fois en même temps. Amen. Eh bien, Dieu n'a jamais besoin d'aller nulle part. C'est ça la grande différence. Dieu n'a jamais besoin d'aller nulle part parce qu'il est déjà présent partout. Jérémie 23 nous dit que Dieu remplit le ciel et la terre. Et cela s'explique bien puisque le temps et l'espace sont au fond, au sein de Dieu. En fait, c'est comme si l'univers, le temps et l'espace sont cousus au sein du Dieu Tout-Puissant. Voici ce que Paul dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 17 au verset 28. Actes chapitre 17 verset 28, Paul dit ceci, « En effet, c'est en lui qui, en Dieu, c'est en lui, en Dieu que nous avons la vie en lui. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Amen. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes ou de vos prophètes, nous sommes aussi de sa race, nous sommes de la race divine et nous avons la vie en lui parce que nous vivons au sein, dans le sein de Dieu. Amen. Psaume 139 verset 8 dit ceci, « Si je remonte au ciel, tu es là, et si je me couche au séjour des morts, te voilà. » David est en train de refléter l'omniprésence de Dieu. Il dit, Seigneur, où est-ce que je peux me cacher de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Même si je vais séjourner au plus profond de la terre, si je vais dans le séjour des morts, tu y es déjà. Amen. Eh bien, que nous allions au ciel ou au plus profond de la terre, Dieu est là. Y compris dans le séjour des morts. Dieu y est présent. Amen. Dieu est proche de vous. Mais il est aussi au-devant de vous en même temps. Dieu dit qu'il n'y a aucun endroit géographique qui soit trop loin pour que je n'y sois pas. Il n'y a aucun endroit où tu pourrais être physiquement, où je ne pourrais pas t'atteindre et te toucher. En fait, l'omniprésence de Dieu est absolument éternelle et infinie. Cela veut dire qu'il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de l'univers où Dieu n'était pas présent partout à la fois. Il n'y a pas un seul moment, en ce moment même où je vous parle, où il n'est pas présent partout à la fois. Et il n'y aura jamais un moment où il ne sera jamais partout présent en même temps. Amen. Il a à jamais été présent partout. Il est à jamais présent partout au moment où je vous parle. Et il sera partout présent à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Sa présence est illimitée dans le temps et l'espace. Et elle est absolument, absolument infinie. Psaume 90 au verset 20, au verset 8. Psaume 90 verset 8 nous dit ceci. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées ou nos secrets cachés. Alléluia. Mais parce que Dieu est partout présent, il n'y a aucun endroit où nous pouvons cacher nos iniquités ou simplement nos péchés. Il est absolument impossible de cacher nos iniquités et nos péchés devant Dieu. Amen. Nos iniquités concernent l'état de nos pensées. Quand la tendance de nos pensées penche vers le péché et que Dieu nous juge iniques. Eh bien, inique veut dire simplement que nous sommes inégaux. Ça veut dire que la tendance de nos pensées est absolument inégale ou elle est dénivelée. Elle n'est pas au même niveau. Elle est dénivelée. À ce moment-là, nous sommes iniques. En fait, quand je parle de la pensée, d'une pensée de l'iniquité, pensée au niveau, le niveau qui est utilisé par les maçons. J'avais un grand-père qui était maçon et il utilisait un niveau quand il faisait la maçonnerie, quand il voulait s'assurer qu'une ligne était bien droite, il utilisait un niveau. Eh ben, le niveau te montre la droiture d'une surface ou d'une ligne. Et donc, quand nos pensées sont dénivelées par rapport à la direction ou la tendance que nos pensées devraient avoir en tant qu'enfants de Dieu, eh bien à ce moment-là, nous devenons iniques. Quelle est cette direction que nos pensées doivent avoir? Quel est le niveau que nos pensées doivent avoir en tant qu'enfants de Dieu? Eh bien, ce niveau, l'apôtre Paul le révèle dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 4, verset 8. Paul nous dit, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, eh ben, voilà le niveau où nos pensées doivent être. Eh ben, quand nos pensées penchent en dehors de ce niveau, eh ben, nous tombons dans l'iniquité. Les iniquités sont donc nos mauvaises pensées sur lesquelles nous n'avons pas encore agi. Ce sont des pensées qui sont dans notre intelligence sur lesquelles nous n'avons pas encore commis d'acte, nous n'avons pas encore agi. Mais nous les possédons toutefois. Alors, quand nous péchons, eh ben, c'est simplement au moment où nous mettons en action cette iniquité-là. Ces pensées iniques, injustes, qui sont déjà dans notre système. Amen. Eh bien, nous péchons, donc, quand nous agissons sur nos iniquités. Mais parce que Dieu est omniprésent, il nous voit entrer dans le péché, et d'aucune façon, nous ne pouvons nous cacher de Dieu. C'est ce que notre ancêtre Adam a réalisé naturellement dans le jardin d'Éden. Vous vous rappelez de l'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden? Eh bien, c'est exactement ça. Alors, le livre de Genèse au chapitre 3, verset 8 à 10, nous dit ceci. Genèse 3, verset 8 à 10, nous dit ceci. Alors, Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme, donc Adam et Ève, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, il n'appela pas la femme, il appela l'homme qui était responsable. Il appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Comme s'il pouvait se cacher de la face de Dieu. Eh bien, quand Dieu est venu parcourir le jardin d'Éden le soir, il n'essayait pas de trouver Adam et Ève. Il n'essayait pas de découvrir où ils étaient cachés. Après tout, un Dieu omniprésent, qui est donc partout présent, qui est présent partout à la fois, savait exactement où ils étaient. Et ils ne pouvaient pas se cacher suffisamment loin de sa présence. Je croyais avoir lu dans Psaume 139, plus haut que nous avons lu, qui dit, si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, te voilà. Alors, il n'y a aucun endroit sur la face de la terre d'où nous pouvons nous cacher de Dieu. Les arbres du jardin n'étaient pas suffisamment denses et suffisamment éloignés pour cacher Adam et Ève de la présence de Dieu. Dieu savait donc parfaitement l'endroit du jardin ainsi que l'endroit exact de l'arbre sous lequel Adam et Ève se tenaient cachés. Amen. Mais Dieu appela Adam, l'homme, et lui demanda « Où es-tu ?» Eh bien, chaque fois que Dieu pose une question dans la Bible, cela ne signifie pas que Dieu n'en connaît pas la réponse. Rappelez-vous que Dieu est toute connaissance. En fait, quand Dieu pose une question, généralement, il veut savoir si vous connaissez la réponse. C'est comme cela que vous obtiendrez la meilleure note à un examen avec Dieu. Un Dieu omniprésent n'essaye pas de jouer au cache-cache avec Adam. La question « Où es-tu ?» n'avait rien à voir avec l'endroit où Adam se cachait, mais plutôt avait tout à voir avec l'accord que Adam avait passé avec Dieu. Voyez-vous, après que Dieu eut créé l'homme, Adam, selon son image et sa ressemblance, il lui donna l'autorité et le dominion sur tout ce qu'il avait créé et mis sur la terre. La cession de ce dominion de Dieu à l'homme Adam était basée sur un accord, sur un pacte, sur une alliance qui définissait ce qu'Adam pouvait et ne pas faire. Cette alliance avec Dieu était si parfaite et si forte que vous voyez bien, chers frères et sœurs, dans Genèse chapitre 2, 19, ça n'est pas Dieu, mais plutôt Adam qui nommera toute la création divine. Et Dieu appellera par le nom que Adam aura donné à chaque créature vivante. Amen. Ça vous démontre la puissance de l'alliance que Dieu avait nouée avec Adam. C'est pas Dieu qui nomme les animaux, c'est Adam qui nomme les animaux. Et Dieu les appelle par le nom que Adam donne à chacun des animaux. Amen. Voyez-vous, l'intention de Dieu était de créer une terre parfaite qui serait l'image parfaite des cieux sur la terre. Amen. À la création, les cieux étaient en parfait accord avec la terre sur laquelle Dieu avait mis en charge Adam et plus tard Ève qui était en parfait accord avec Adam et les deux en parfait accord avec Dieu. Tant que Adam était en parfait accord avec Ève et les deux étaient en accord avec Dieu et ils vivaient sur la terre qui était en parfait accord avec les cieux, eh bien, nous avions alors les cieux sur la terre. Mais par la question que Dieu pose, où es-tu? Eh bien, Dieu demandait à Adam où il se tenait par rapport à leur alliance qu'Adam venait de briser en tombant sous le mensonge du diable qui lui a vendu, en fait, ce qu'il avait déjà. Voyez-vous, le diable vint le mentir en le faisant croire que s'il mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il sera comme Dieu. Mais je pensais, je croyais avoir lu dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, Dieu dire « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme. » Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce qu'être à l'image et la ressemblance de Dieu, si ce n'est être comme Dieu? Eh bien, le mot « image » utilisé ici vient de l'hébreu « tselem ». Eh bien, « tselem » veut dire « silhouette » ou simplement « figure représentative » ou « ressemblance ». C'est exactement ce mot-là, donc « image »,« tselem » que Paul utilise quand il se réfère donc à l'image, à Jésus étant l'image de Dieu, donc Colossiens au chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, 15, Paul nous dit ceci, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Il réutilise la même analogie dans Hébreux au chapitre 1, verset 3, Hébreux 1, 3, quand Paul dit ceci, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Paul parle en fait de l'impression faite sur une pièce de monnaie qui s'appelle le flaron, qui elle vient d'un marteau équipé de poinçons, pile ou face, portant l'empreinte légale de la pièce de monnaie pour marquer le flaron et créer la pièce de monnaie. Même si nous n'avons pas vu le marteau et son poinçon, qui serait donc Dieu lui-même, eh bien, nous pouvons savoir à quoi il ressemble en regardant l'image parfaite, Jésus, sur la pièce de monnaie qui est fabriquée. Eh bien, de même, quand la Bible dit que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance, eh bien, cela veut dire que vous êtes créé pour refléter l'être de Dieu par son esprit, sa ressemblance et son caractère moral. Amen. Alors, Adam avait avalé le mensonge du diable avec hameçon, ligne et flotteur, comme disent les Texans. Hameçon, ligne et flotteur. Cela amena malheureusement à briser l'alliance avec Dieu. Mais Dieu, merci pour Jésus-Christ, le deuxième Adam, viendra donc réparer l'alliance et accomplir pour toujours la volonté de Dieu et nous redonner le dominion et l'autorité. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, un Dieu omniprésent connaît où sont toutes les possibilités, parce qu'il est présent partout à la fois, et connaît également où sont tous les dangers qui s'élèvent contre vous, contre votre vie et contre la mienne. Un homme au nom de Balaam l'a appris à ses dépens. L'histoire est reportée dans le livre de Nombre chapitre 22, l'histoire nous parle d'un monsieur qui s'appelait Balaam, qui était donc un homme qui entendait la parole de Dieu, mais il pouvait également être utilisé par l'ennemi. Alors il avait été chargé par les ennemis d'Israël d'aller maudire les enfants d'Israël. Eh bien, en route pour aller exécuter son œuvre maléfique, le Dieu qui est partout présent, le Dieu qui est omniprésent, l'omniprésent, le seul Dieu omniprésent, le rencontra sur le chemin alors qu'il chevauchait son âne pour aller maudire les enfants d'Israël. Nombre 22, chapitre 22 au verset 26. Nombre chapitre 22, verset 26. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter, à droite ou à gauche. Eh bien, Dieu sait toujours comment coincer, comment nous coincer dans des situations, comment attirer son attention. Amen. Il n'y avait aucun endroit où aller, ni à gauche ni à droite. Il était coincé. L'ânesse que Balaam chevauchait vit l'ange de l'Éternel et s'affaissa sous Balaam. L'ânesse s'affaissa sous Balaam. Alors, la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et dit à Balaam. L'Éternel fit parler l'ânesse. Chers frères et sœurs, vous imaginez pas ce qui se passe ici, c'est un miracle. L'Éternel est en train de faire parler un animal, une ânesse, un âne. Il est en train de faire parler une ânesse. Et l'ânesse dit à Balaam, qui est son maître, « Que t'ai-je fait pour me frapper ? Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ?» Déjà trois fois, dit l'ânesse. Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Oh là 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 là. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. » Au verset 30, l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as toujours monté depuis toujours jusqu'aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi vers toi ?»« Non, dit Balaam. » Frères, chers et sœurs, c'est une histoire vraie là. Il y a un homme qui est en train de parler avec une ânesse et sans peut-être s'en rendre compte. Finalement, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Balaam vit l'ange de l'Éternel. Frères et sœurs, parfois quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, ça veut simplement dire Jésus. Jésus qui se présente devant lui. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il y avait déjà un ange qui se tenait sur le chemin de Balaam avec une épée, prêt à le tuer. Il s'inclina alors et se prosterna le visage contre la terre. Voilà la puissance d'un Dieu que nous servons, qui est omniprésent, qui peut être partout dans toutes les présences. Quand il y a un sorcier qui est envoyé vers toi, quand il y a des choses maléfiques qui sont envoyées vers toi, quand il y a des prières maléfiques qui sont faites contre toi, quand il y a toutes choses qui sont forgées contre toi, alléluia. Tu peux compter sur un Dieu omniprésent qui sera toujours là, qui sera ton bouclier, qui sera là pour te protéger. Amen et amen et amen. Voyez-vous, Dieu qui est omniprésent sait quand vous faites face à un danger. Il s'assurera que vous restiez sain et sauf à l'ombre de ses ailes. Et Dieu utilisera tout l'arsenal dont il dispose pour pourvoir à vos besoins et vous protéger Même s'il doit faire parler un âne ou une ânesse. Eh bien, vous savez maintenant d'où l'idée du film Shrek il vient. Je ne sais pas si vous avez tous regardé le film Shrek. Mais vous vous rendez bien compte que cette image, cette idée, l'idée du film ne vient pas de Mike Myers ou de Eddie Murphy ou de Cameron Diaz. L'idée de Shrek vient de Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 22. En parlant justement de Shrek, eh bien, laissez-moi emprunter la phrase de la princesse Fiona. La princesse Fiona dit ceci, en parlant justement de Shrek, « Le changement est bon, Anne. Pourquoi ne changerez-vous pas alors, mon cher frère, ma chère sœur, monsieur, madame, et à connaître ce Dieu merveilleux, celui qui est omniprésent et qui veillera sur vous. Amen et amen et amen. » Eh bien, nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. Et espérons vous retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez toujours accéder à nos podcasts sur www.riverworld.podomatic.com ou sur www.riverworldinternational.org ou sur iTunes ou encore sur nos sites Twitter et Facebook. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. À bientôt, à la semaine prochaine.